pratique. Je prends juste un exemple, parce que ça, c'est un élément fondamental de la culture de la régression que nous connaissons de notre époque. Juste un exemple, la philosophie de la responsabilité individuelle. Alors, Dieu sait, alors ça, c'est une idée qui a eu beaucoup de succès au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Cette idée que fondamentalement, les individus sont responsables de leur sort, de leur histoire et de ce qui leur arrive, et d'ailleurs que c'est très bien comme ça, que c'est là-dessus qu'ils peuvent fonder l'estime d'eux-mêmes. Alors cette culture de la responsabilité individuelle, qui est une des caractéristiques fondamentales du néolibéralisme contemporain, qui considère par exemple que si les gens sont au chômage, quelque part assez fondamentalement, c'est parce qu'ils ne font peut-être pas tout à fait ce qu'il faut pour ne pas l'être, et qui même quand les gens ne nient pas qu'il y a des circonstances objectives, quand ils cherchent des remèdes, ils ne cherchent pas des remèdes pour changer la société qui serait responsable de cette situation, non, ils cherchent des remèdes concernant l'individu parce qu'ils voient ça comme un problème individuel, c'est l'individu qui a un problème pour s'adapter à cette société et pour faire ce qui est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc à la limite, si on reconnaît que parfois il faut l'aider, vous voyez bien dans quel sens, c'est l'aider à devenir quelqu'un de plus capable et donc de plus responsable. Bon, donc c'est un élément clé de la philosophie et de la culture contemporaine, et notamment de la culture néolibérale. Bon, cette philosophie, qu'on retrouve y compris dans beaucoup de courants de pensée de gauche, par exemple on retrouve dans la fameuse troisième voie, entre guillemets, inventée par le sociologue Anthony Giddens, qui devait être hein, dans les années 80 une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, entre la vieille gauche et la vieille droite, qui a inspiré notamment Tony Blair, le New Labour, et puis après le SPD allemand, pour son plus grand malheur, on voit où ça les a amenés, et qui a inspiré beaucoup de partis sociodémocrates et socialistes en Europe. Anthony Giddens, lui, quand il résumait, on lui demandait de résumer en une phrase ce qu'était la philosophie de sa troisième voie, eh bien, il disait que c'était justement qu'il n'y avait pas de droit sans obligation et sans responsabilité personnelle. Et donc cette culture de cette idée, entendez bien ce que ça veut dire, quelle monstruosité, c'est de dire en réalité, si vous y réfléchissez 30 secondes, c'est de dire que il n'y a pas de droit sans obligation et sans responsabilité. C'est un discours, et il n'en avait certainement pas l'intention, mais je pense que c'est une certaine forme d'indigence contemporaine de la pensée qui interdit de voir ça. C'est un discours qui abolit un des traits fondamentaux et un acquis de la modernité, qui est l'idée de droit de l'homme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des droits imprescriptibles des êtres humains, simplement attachés au fait qu'ils sont des êtres humains, même si c'est les pires des salopards, les pires des criminels, c'est-à-dire des gens totalement irresponsables. Nous vivions jusqu'à il y a peu encore dans une culture où on considérait donc un être humain, parce qu'il est être humain, par sa seule condition d'être humain, il a des droits, sans aucune contrepartie, sans obligation, sans que rien ne soit demandé en échange. Et donc affirmer qu'on fonde une philosophie politique sur l'idée qu'il n'y a pas de droit sans responsabilité individuelle, sans contrepartie, en fait c'est une monstruosité. Mais ça reflète quoi? Ça reflète une conception anthropologique très précise, à savoir que l'individu est un atome isolé, un individu autonome, indépendant d'autrui, que l'on peut penser comme séparé et indépendant de la société. C'est-à-dire comme quelque chose qui est à côté de la société. Alors à ce moment-là, vous voyez la société ben, comme un rassemblement d'individus indépendants qui doivent discuter, passer des accords, des contrats, les théories du contrat social, pour faire une société ensemble. Comme si l'individu préexistait à la société, pouvait être pensé comme étant une chose indépendante, séparée de la société dans laquelle il vit. Si c'est vrai, ça suppose en effet des individus autonomes. C'était la conception de Descartes, cartésien, je pense donc je suis, il y a quelque chose en moi qui est le jeu, le sujet, qui existe et qui vient de Dieu, du ciel ou d'ailleurs, donc qui est métaphysique et qui existe indépendamment des autres, indépendamment de la somme de mes déterminismes, de nos relations, interactions avec les autres et qui me constitue en tant qu'être humain. Et alors si cet être-là totalement autonome, indépendant existe, alors en effet, on peut dire que lui, ce sujet, il est responsable. Si en effet, c'est le libre arbitre du jeu, du sujet qui décide de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, qui est autonome, c'est-à-dire qui fixe littéralement sa propre règle, sa propre norme, alors en effet, ce qui lui arrive dans la vie, il en est responsable. Donc il est parfaitement cohérent de dire que les gens sont responsables et qu'il n'y a rien sans responsabilité personnelle et individuelle, si on est sûr que l'individu peut bien être pensé et existe réellement comme cet individu qui est capable d'exister indépendamment des autres, qui ne doit rien aux autres, etc. Évidemment, il suffit d'y réfléchir, même sans y réfléchir, il suffit d'y penser une nanoseconde pour comprendre que c'est une ânerie monumentale, c'est-à-dire que personne n'est tombé du ciel. Alors, cela dit, attendez, on peut le croire, hein. Je ne suis pas en train de dire, et là, de mépriser des croyances. Hein, on a le droit de le croire. On a le droit de croire qu'il y a une part métaphysique en nous, qui vient d'ailleurs, qui est notre âme, notre sujet autonome, etc. Mais ce que je dis, c'est que quand on construit un discours politique, une théorie économique ou une théorie politique, et non pas une religion, une théologie, pour constituer une église, on ne peut pas fonder son discours sur une théologie. Donc, on a le droit de croire ça, mais quand on veut fonder une théorie politique, économique, etc., sur des bases solides, on ne peut pas le fonder sur cette idée que les gens ne viennent pas du ventre de leur mère. Au moins, ça, ce que tout le monde peut croire et partager, c'est qu'il n'y a personne au monde dans l'histoire de l'humanité dont on puisse dire qu'il n'est pas venu du ventre de sa mère, même pas Jésus-Christ, puisqu'il se trouve que c'est dans les Écritures, lui-même est sorti du ventre de sa mère, figurez-vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que nous sortons du ventre de notre mère? Ça veut dire que un individu, contrairement à un petit poulain qui sort du ventre de la jument, l'individu humain qui sort du ventre de sa mère est un individu qui ne peut rien faire, qui ne peut même pas d'ailleurs vivre, mais qui ne peut rien faire d'humain autrement que grâce à l'histoire des relations, des communications et des interactions qu'il va avoir avec les autres. Voilà. Le bébé qui sort du ventre de sa mère a juste ce qu'il lui faut de capacité de fonctionnement cérébral pour pouvoir respirer, gueuler et sucer. Voilà, c'est à peu près tout. C'est-à-dire, il a ce qui lui va permettre de survivre dans les heures qui suivent l'expulsion. Pour le reste, rien. Il n'est capable de rien. Son cerveau est totalement informe. La plupart des connexions, pas informe, mais la plupart des connexions ne sont pas achevées. Et donc, l'essentiel des connexions synaptiques et donc de la mise en route de toutes les capacités vont continuer de se développer extra-utéro et non pas intra-utéro, et ceci étant le résultat d'une longue évolution qui a fait que le passage de la station debout et la transformation du bassin de la femme a fait qu'il fallait expulser les petits-enfants au bout de 9 mois et non pas au bout de 18, 19, 20, 21 mois, comme c'est le cas pour d'autres primates comparables. Bref, passons sur cette histoire. Mais à partir du moment où les individus sont obligés de grandir quelque part avec des gens, avec une langue, avec une histoire, avec une culture singulière, bien évidemment, ce qu'ils vont devenir va être une responsabilité partagée par l'ensemble de la société. Donc du coup, cette idée de la responsabilité individuelle est quelque chose qui ne veut plus rien dire. Il n'y a pas de responsabilité individuelle, il ne peut y avoir que de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'au départ, la société est responsable de tout par rapport à un individu. Et la responsabilité individuelle n'est pas un état, la responsabilité individuelle peut éventuellement être un projet, c'est-à-dire que par l'éducation à la liberté, on espère faire que quelqu'un puisse prendre sa part de responsabilité dans son destin et dans sa vie, mais même ça, voyez-vous, c'est la responsabilité de la société. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas grandir dans un milieu qui va lui permettre d'accéder à cette relative autonomie et à cette liberté ne pourra pas la déployer pleinement. Donc, d'où la nécessité de revenir en effet à des fondements solides. Alors, j'en viens. Alors, ça, c'était l'objet du deuxième temps de cette recherche. Alors, il m'avait permis, on va arriver à la grande régression au moment que nous vivons, il m'avait permis de distinguer dans les sociétés justement, humaines, justement, en fonction de la question de savoir si elles étaient plus ou moins proches, conformes ou compatibles avec ce qui peut faire la qualité d'une vie humaine, à distinguer différents types, idéal types, si vous voulez, hein, pour faire un peu une typologie des types de sociétés dans lesquelles on peut vivre. Alors, à partir du constat fondé anthropologiquement, etc., que un des moteurs fondamentaux essentiels des êtres humains pour être eux-mêmes et exister à peu près correctement est la nécessité d'articuler déjà deux moteurs, enfin, c'est les deux faces d'un même moteur en réalité, qui est leur désir d'être eux-mêmes par eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est toutes les pulsions d'expansion de soi, d'épanouissement de soi, enfin, la pulsion d'existence en quelque sorte, hein, et le désir d'être avec les autres, par les autres, dans les autres, dans lesquels vous retrouvez toutes les pulsions grégaires, le goût de la similitude, la passion de faire des choses ensemble avec les gens qui pensent comme nous, qui s'habillent comme nous, etc. Bon. Et cette ambivalence fondamentale, hein, de l'être humain qui à la fois veut se distinguer, veut être singulier, veut surtout pas être comme les autres, mais qui dans d'autres registres n'a jamais autant de plaisir que quand il est justement avec des semblables qui sont comme lui, qui pensent et qui font la même chose que lui. Ce sont les deux moteurs qu'on retrouve dans la chimie du cerveau, hein, et dans la chimie du fonctionnement de la relation de l'enfant à la mère, par exemple, qui est bien un mouvement d'alternance. Pour être bien, il faut être à la fois collé et fusionné à des bases de sécurité et d'attachement, comme l'est la mère pour le petit enfant, mais si ça dure trop longtemps et s'il n'y a que ça, ça se transforme en intoxication chimique épouvantable, donc il faut s'en libérer, et donc quelque part cet attachement est aussi ce qui donne l'énergie pour s'enfuir, pour aller voir ailleurs, pour découvrir d'autres choses, d'autres gens, et donc créer le manque justement de tout le bonheur de la fusion de l'attachement qui va faire qu'on y revient, etc. Et donc une vie humaine, c'est un enchaînement, une alternance permanente, vraiment, de pulsions pour être soi, par soi, singulier, etc. Et de pulsions pour être avec, s'identifier à d'autres, faire des choses ensemble, être solidaire. Et puis à un autre moment, on sera dans la rivalité, dans la compétition. C'est ce moteur. Moteur à deux temps permanent. Donc qui peut fonctionner harmonieusement, en particulier dans une société qui va permettre l'articulation d'un ensemble de cercles sociaux multiples, diversifiés, mais ouverts les uns aux autres, liés et non pas fermés les uns aux autres. Quand c'est le cas, alors à ce moment-là, je dirais la ronde humaine tourne à l'envers, à l'endroit, pardon. C'est quand ça n'est plus le cas qu'elle tourne à l'envers. Et la grande régression, c'est pour ça que je vous explique tout ça, la grande régression, justement, c'est la phase de la période ou le cadre social dans laquelle la ronde humaine se met à tourner à l'envers. Quand elle tourne à l'endroit. Quand elle tourne à l'endroit, eh bien, le petit enfant, il commence par se socialiser avec sa mère et puis son père. Il échappe un peu à l'étouffement de la mère grâce au père, et puis à l'étouffement des parents grâce aux frères et sœurs, puis à l'étouffement de la famille grâce aux copains d'école, les voisins, etc. Ouais. Et en grandissant, eh bien, nous élargissons sans cesse notre sphère de relation et de notre manière d'être avec et au monde à des cercles de plus en plus nombreux, de plus en plus larges. Alors après, quand on est adolescent, quand l'adolescent abandonne ses copains, figurez-vous, c'est pas pour détruire des liens, c'est pas parce qu'il les aime plus, c'est en général parce qu'il est tombé amoureux. Et si je prends cet exemple-là, pour faire comprendre quelque chose qui est fondamental et qui est essentiel, et qui est essentiel dans mon analyse, c'est que ce nous permet de découvrir justement une réelle anthropologie du fonctionnement des êtres humains, c'est que notre liberté se construit toujours en construisant des liens et non pas en détruisant. C'est-à-dire que ce n'est pas la destruction des liens qui crée la liberté, ce sont toujours des liens qui créent la liberté. Alors il y a des liens qui adviennent, par exemple la mère étouffante qui ne veut pas lâcher son gosse, etc. Ça c'est un lien et ça se transforme non pas en attachement sécurisant, mais en attachement destructeur et insécurisant pour l'enfant. Ça ne permet pas la liberté. Mais ce qui permet la liberté, c'est pas je t'aime pas et on brise le lien. Non, au contraire, l'enfant le plus libre, il sera le plus capable plus tard d'autonomie, c'est celui qui a eu un attachement très fort et très sécurisant à la mère. Donc, il faut des liens, mais des liens qui libèrent. Voilà, il y a des liens qui libèrent, qui sont des liens forts, mais qui sont des liens ouverts et qui servent de base de sécurité pour aller vers autre chose. Et puis, il y a des liens qui aliènent, qui sont des liens de possession, d'enfermement et de destruction de la liberté. Et donc, en élargissant les cercles, eh bien, de l'enfance à la famille, au voisinage, aux copains d'école, au cercle du travail quand on est adulte, au cercle, voilà, de la vie associative où on fait autre chose, encore d'autres gens que ceux du travail, que la famille. Et puis, il nous arrive aussi, on a des communautés symboliques, on se sent aussi membre d'un cercle qui s'appelle la ville, ou notre village, ou notre région. On peut avoir des attaches régionales, à une culture régionale, à des pratiques, à des coutumes régionales. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est des régionalistes fermés qui considèrent que ceux de la région d'à côté, c'est des crétins qui n'ont rien compris et qui n'ont aucun intérêt, parce qu'on peut aussi se sentir membre d'une communauté plus large, qui est la communauté politique que forme un pays, une nation, et c'est pas parce qu'on aime sa nation qu'on est un nationaliste. car on peut être un amoureux de sa nation, voire à la limite un petit peu chauvin quand c'est un match de foot, etc., et avoir le sentiment d'appartenir à une communauté plus large qui s'appelle l'humanité ou l'Europe, etc. Et donc on comprend bien que à la fois, quand la ronde tourne à l'endroit, en fait, chaque cercle d'attachement est un cercle qui offre une base de sécurité pour aller vers les autres. L'autre cercle est celui qui libère justement du risque d'aliénation dans un cercle trop étroit. Et c'est bien que comme ça, vous pouvez avoir des gens qui sont des fondus de leur plat régional et qui en démordent pas, et qui en même temps sont des gens qui vont chanter la Marseillaise avec fou parce que c'est des Français, et qui sont des pro-européens, et qui sont des citoyens de l'humanité anti-racistes, anti-xénophobes et anti-nationalistes. C'est-à-dire qu'ils sont tout à la fois. C'est-à-dire ils cumulent une multitude d'attachements très forts, intracommunautaires, à leur famille, à leur culture, à leurs idées, à leur machin, et en même temps, ils sont ouverts à tous, fermés à rien, en capacité de coopération avec tous les autres, parce qu'ils circulent entre tous ces cercles. Alors ça, c'est ce qui se passe quand la ronde humaine tourne à l'endroit. Et ça, j'appelle cela une société de progrès humain. La société de progrès humain, c'est celle justement qui crée un cadre social, qui permet aux individus à chacun une égale capacité à concilier justement ses aspirations ambivalentes. C'est-à-dire qu'il crée un cadre dans lequel l'aspiration à l'autonomie, la liberté, l'épanouissement personnel peut s'articuler harmonieusement avec le désir d'être avec, en coopération, en solidarité, etc. D'une part, ça c'est sur le premier type de lien, qui sont des liens finalement entre l'individu et les autres. Et donc on pourrait dire des liens intracommunautaires, la nature des liens que je noue avec ma famille, avec mes collègues de travail, avec ma région, avec les citoyens de mon pays. Et il y a un deuxième type de lien qui doit être également développé, qui sont les liens intercommunautaires. C'est-à-dire qu'il faut aussi un cadre social qui favorise l'interrelation, le dialogue, la discussion, l'ouverture, le métissage entre les différentes formes d'appartenance communautaire, entre les familles, entre les régions, entre les religions, entre les cultures, etc. Alors quand c'est le cas, vous avez effectivement cette ronde qui tourne à l'endroit où à la fois peut se développer l'épanouissement personnel, l'autonomie individuelle, mais dans un cadre d'harmonie et de coopération sociale. Bon. Donc c'est la préservation et le développement de tous les liens sociaux. Alors par rapport à ça, évidemment, qui est un idéal type, eh bien, il y a des sociétés perverses qui vont plutôt du côté de l'inhumanité. Alors, il y a d'abord ce que j'ai appelé la dissociété, mais il y a deux types de dissociété. Il y a une dissociété individualiste. La dissociété individualiste, c'est la société, c'est le cadre social qui mutile et qui réprime l'aspiration fondamentale des êtres humains à être avec les autres, à faire des choses avec eux, à être ensemble, à être solidaires, à coopérer, à vivre bien avec autrui. Et donc, il va avoir tendance à mépriser et mutiler tous les types de liens sociaux, aussi bien les liens intercommunautaires que les liens intracommunautaires. C'est l'atomisation, hein, c'est le culte de l'individu. Et qui va, on pourrait dire, c'est un fantasme libertaire, voilà, hein, de l'individu parfaitement délié de toute norme, de toute règle, de toute loi supérieure à lui, donc de toute attache, qu'elle soit communautaire ou qu'elle soit la grande société. Bref, c'est la société des individus, véritablement, hein, juxtaposés, rivaux les uns contre les autres, où l'idée, c'est finalement que le meilleur gagne et chacun est responsable de son sort. Donc ça, c'est une forme de dissociété atomisée, individualiste, qui quelque part correspond un peu à un idéal qu'on trouve chez certains néolibéraux ou dans le néolibéralisme contemporain, ou certains, je dirais, libéraux libertaires ou néolibéraux libertaires, dont la société idéale serait une espèce de société où chacun vivrait séparé dans son ranch ou dans sa petite entreprise et n'aurait d'échanges avec les autres que sous la forme justement d'échanges marchands, si possible par Internet, pour qu'ils n'aient pas besoin de se parler, de se toucher et de se rencontrer, et chacun vivant sur sa propriété le plus loin possible des autres. Ça, c'est donc la vie société individualiste. Et il y a des pulsions de ce type vers ce type de société depuis 30 ans dans les grandes sociétés occidentales, hein, avec des formes d'hyper-individualisme. Il y a une dissociété que j'appelle la dissociété communautarisée. La dissociété communautarisée, c'est une dissociété qui a des pulsions destructrices de la société, mais de la grande société. c'est-à-dire de la République, hein, de la nation, du peuple uni comme communauté politique, mais qui ne détruit pas tous les liens sociaux et tous les attachements, au contraire, parce que c'est une forme de vie société qui a besoin, pour maintenir l'ordre et une forme d'harmonie sociale, de tenir les individus et de maintenir l'ordre, en quelque sorte, en tenant les individus dans le cadre de leur sous-communauté. Donc c'est ce que j'appelle une vie société communautarisée, où chacun vit dans sa religion et n'a pas le droit d'aller fricoter avec les gens de la religion d'à côté. Il vit dans sa classe sociale, dans sa ville de riche ou dans sa ville de pauvre ou dans sa ville de policier. Parce que si vous voulez, aux États-Unis, il y a des villes de policiers. Ça s'invente pas. Donc c'est la juxtaposition et la séparation des communautés repliées sur elles-mêmes, alors qu'à l'intérieur, vous avez des liens très forts, des liens tellement forts d'ailleurs qui peuvent aller en effet jusqu'à l'aliénation assez forte de l'autonomie des individus, donc des gens aliénés dans leur famille, dans leur culture, dans leur communauté, mais et très liés, mais qui sont en rivalité, qui sont dissociés, séparés des autres communautés. Donc ça, c'est l'éclatement communautariste de la société. Et il y a aussi des pulsions en ce sens dans nos sociétés occidentales, mais qui ne sont pas évidemment les mêmes dans tous les pays. Et il y a un quatrième type de société inhumaine, c'est ce que j'appelle l'hyper-société, qui est celle qui, elle, réprime alors l'aspiration à l'autonomie, à la liberté personnelle, à la singularité, et qui cherche à fusionner les individus dans un tout social, dans une grande société, et donc qui, elle, a tendance à mépriser les liens intracommunautaires, c'est-à-dire dans des communautés singulières, n'aiment pas trop que les gens aient leur culture à eux, leur culture régionale, leur façon de parler, leur façon de penser, ou leur religion, son idéal, ce serait que s'il y a une religion, ce soit la même pour tout le monde, qu'il n'y ait qu'une unité nationale et pas de particularité locale, etc., et que les individus, finalement, ne soient ensemble que dans un grand tout social. La limite de ce collectivisme, en quelque sorte, hein, de cette collectivisation des individus, la limite, le pôle d'attraction, ce que j'appelle le pôle d'attraction, c'est le totalitarisme. Hein, c'est que ça commence par une atomisation parfaite des individus qui ne doivent plus être attachés ni à leur religion, ni à leur région, ni à leur famille, ni à rien. Ils doivent être juste des individus fondus dans le grand tout qu'est l'État et au service de l'État. Donc ça, c'est une des formes de société inhumaine.